Bonjour tout le monde, c'est votre topo des marchés en ce vendredi 24 février. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Éric Fournier, je suis directeur du département des grains et commodités chez Bernard Breton Incorporé. Cette semaine, je voulais quelques éléments sur lesquels je voulais attirer votre attention. Comme à chaque année, l'USDA fait ce qu'ils appellent leur outlook, c'est-à-dire qu'ils font des prévisions, une première prévision de ce qui pourrait arriver, basée sur les historiques et sur une base plutôt économique. Donc, on s'entend que c'est des valeurs plutôt théoriques, mais quand même, ça nous donne un peu de quelque chose à travailler avant d'avoir le rapport officiel des intentions d'ensemencement prévu pour le 31 mars. On va aller voir ce que ça donnait. Je vais vous amener directement dans le dit rapport. Ici, le petit tableau qu'on a là. Ce sont les ancrages anticipés du blé, du maïs et du soya. Pour ce qui est du blé, ben, les ancrages passeraient de 45,7 à 49,5, ce qui est quand même une bonne augmentation. On parle ici de tout près de 4 millions d'acres de plus en blé. Au niveau du maïs, on passerait de 88,6 à 91 millions d'acres, donc pas tout à fait 2 millions d'acres de plus. Et ce serait le statu quo pour le soya. Au niveau des ancrages total des trois cultures, ben, vous voyez que ce serait la plus grosse année depuis 2016. Vous voyez, 2016, c'est le chiffre qui s'en approchait le plus, hein, à 227,6 millions d'acres. Là, on serait à 228, puis versus 221,8 l'an dernier, donc. Comme je vous dis, ces chiffres-là, il faut les prendre avec modération, mais ça donne quand même une première idée, mais ça veut dire qu'il y aurait beaucoup, beaucoup d'ancrage de sommet comparativement à l'an dernier. On parle de 7 millions d'acres de plus là, pour les trois cultures, les augmentations combinées. Si on va voir maintenant les bilans, on a sorti aussi les bilans. Désolé, il faut que je revive dans les bons tableaux. Oups, ici, on a notre bilan de maïs. Au niveau du maïs, les ancrages, bien évidemment, on reprend les chiffres qu'on avait tantôt, hein, 91 millions d'acres, avec ce qui se perd en cours d'année, on aurait 83,1 millions d'acres récoltés. Les rendements, 181,5 boisseaux à l'acre versus 173,3 l'an dernier. Vous comprenez qu'avec un chiffre comme ça, on gonfle un peu la production, hein, on parle de 15 milliards de boisseaux versus 13,7 l'an dernier. À 15 milliards de boisseaux, ce serait une récolte qui serait semblable à celle de 2021. Pour le reste, ça reste des prévisions très préliminaires, mais vous voyez qu'au niveau des exportations, on a quand même prévu une augmentation des exportations de 1,9 à 2,2 milliards de boisseaux. Ce qui fait que l'utilisation totale passerait de 13,9 à 14,5 milliards de boisseaux, mais pour des stocks qui seraient en hausse, de tout près de 6 millions de excusez de 600 millions de 600 millions de 600 millions de boisseaux versus l'an dernier, donc on passerait de 1 point pas tout à fait 1,3 à 1,9 milliards de boisseaux, mais comme je vous ai dit, avec des rendements à 181,5, on comprend qu'on gonfle peut-être un peu. Ça prend des conditions idéales là, pour aller atteindre ces chiffres-là. Faites un petit calcul rapide tantôt. Si on diminue le rendement à 175, bon, on se retrouve avec un bilan en considérant les chiffres de demande identiques à ceux présentés ici. Ça nous ramène à notre bilan de 2022-23, quelque part autour de 1,2-1,3 milliards de boisseaux. Donc, même avec des ancrages plus importants, il faut que Dame Nature collabore si on veut une bonne augmentation des stocks, comme il est mentionné ici. Au niveau des prix, qui est la dernière ligne, ben, vous voyez qu'il y a un impact important sur les prix. Hein. C'est 1,10 de moins du boisseau, là, le prix moyen payé à la ferme, là, qui est prévu pour la récolte 2023. Maintenant, si on va voir du côté du soya, vous voyez que les chiffres sont assez. Au niveau des ancrages, mais très peu de changements. Le rendement, encore une fois, le rendement prévu à 52 millions, 52 boisseaux, alors, excusez. Versus 49,5 l'an dernier. Donc, ça vient faire une augmentation de la production, vu l'augmentation vu l'augmentation du rendement. Pour le reste, là aussi, les exportations sont revues légèrement à la hausse, mais je vous dirais que c'est un chiffre qui est quand même très près de celui qui est prévu cette année. Je ferai des ending stocks qui passeraient de 225 à 290. Donc, c'est sûr que c'est pas une année où on repart dans l'abondance du soya aux États-Unis, mais quand même, ça continue d'augmenter les stocks, si ces chiffres-là se réalisent, évidemment. Par contre, même si les stocks augmentent pas beaucoup, vous voyez que l'impact est quand même, en tout cas sur la prévision de prix, très important. Hein, on passerait de 14,30 du boisseau cette année à 12,86 du Boisseau, excusez. Donc, ce serait un prix qui serait plus bas que même celui eu en 2021-2022. Maintenant, du côté du tourteau de soya, on peut passer rapidement. Ce que je regarde surtout là-dedans, c'est oui, c'est surtout les ending stocks. Hein. Vous voyez peut-être une augmentation ici là, au niveau des stocks finaux, mais les prix. 40 $ tonne courte de moins prévu pour l'an prochain, versus un 450 cette année, qui sera un sommet là, des 4 années qui sont présentées là, ce qu'on paye présentement là, au niveau du tourteau de soya. Ça, je vais passer rapidement. Au niveau du blé. Avec l'importante augmentation d'ancrage prévue, donc avec des rendements quand même assez importants, là, 49,2 pour reculer en 2020-21, comme vous voyez ici, là, qui est à 49,7, on sera à 49,2, ce qui fait que la production serait tout près de 1,9 milliard de boisseaux. C'est la production la plus importante là, des dernières années. Avec ça, bon, c'est sûr qu'on prévoit une augmentation de l'usage de presque 100 millions de boisseaux, ce qui fait que les stocks de fin sont quand même très près de ceux de cette année, là, de 168 à 608. Il n'y a pas tellement de grosses différences à ce niveau-là. Et le ratio stock-usage est à peu près semblable aussi, hein, seulement 1% de variation. Par contre, ça permet de diminuer les prix, ça diminuerait les prix de 50 sous du boisseau. Vous voyez que l'impact ici, même avec la plus forte augmentation d'ancrage qui est dans le blé, ben, l'impact sur les prix est beaucoup moins prononcé qu'elle serait si ces chiffres-là se réalisent là, au niveau du soya et au niveau du maïs. Excusez. Maintenant, si on regarde plus près de nous, marché local, là, on a une tendance à baisse dans les. J'ai pensé vous sortir le tableau, là, c'est accessible à tout le monde, là, ce petit tableau-là. C'est sur le site des producteurs de grains du Québec. Pour vous figurer un peu le prix présentement moyen payé à la ferme. Ce qu'on voit ici dans les. Si on va chercher les chiffres, je pourrais aller chercher les chiffres de mars. Février est presque terminé. On va chercher au niveau graphique pour voir l'évolution des prix. Mais vous voyez que depuis, je vous dirais, le mois d'octobre, qui était un sommet pour l'automne, qui n'était pas un sommet absolu, mais pour un sommet pour l'automne, les prix sont sur une tendance à la baisse pour ce qui est des prix payés à la ferme. Et dernièrement, cette tendance-là semble avoir voulu s'être accélérée. Cette semaine, une légère hausse du prix, mais quand même, vous voyez que la tendance à la baisse depuis l'automne dernier reste quand même tout de même en place et pourrait, en tout cas, à mon avis, se poursuivre, à moins d'une recrudescence importante du côté de la demande, pour avoir beaucoup de pression sur les prix prochainement au niveau du maïs. Puis on pourra aller voir, tandis qu'on est là, pour la prochaine récolte, ce que ça donne. C'est très préliminaire comme chiffre. Vous voyez seulement 5 900 tonnes de déclarés, mais quand même, on peut voir qu'il y a beaucoup de volatilité au niveau des prix pour la prochaine récolte. Hein. Puis pas beaucoup de volume de fait, c'est-à-dire que autant les vendeurs que les acheteurs, personne n'ose trop se commettre. Hein. C'est comme deux boxeurs dans un ring de boxe. Ils prennent le temps de s'étudier avant de donner le premier coup. Je pense que c'est un peu ça. On ne sait pas trop où le marché va être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, c'est dur d'établir un prix juste et équitable à ce temps-ci de l'année pour la prochaine récolte, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'y arriver. Donc, on est encore en mode on s'étudie avant de se prononcer. Donc, c'est ce qui amène cette volatilité-là et ce peu de volume-là aussi, parce qu'il n'y a personne qui ose trop se commettre là, des deux côtés, à mon avis, là, tant du côté des vendeurs que des acheteurs. Maintenant, ici, j'ai sorti le graphique du maïs. On a atteint un niveau aujourd'hui que je considère un niveau critique, hein, 6,50 $ du boisseau. Vous voyez ici sur le graphique, depuis l'automne dernier, même l'été dernier, je vous dirais depuis le mois d'août, à chaque fois qu'on a touché le 6,50 $, le prix est reparti en remontant, rebondi. Donc c'est un important support de prix ici là, à 6,50 $. Si on devait réussir à percer ce 6,50 $-là la semaine prochaine, ou dans les semaines qui viennent, ben, il n'y a pas grand-chose qui le retient. Là. On pourrait descendre facilement vers les 6 $ là, avant d'avoir un peu de résistance à ce niveau-là. Donc, ça va être à surveiller la semaine prochaine. Qu'est-ce que les marchés vont faire? Est-ce que la négativité actuelle du marché va demeurer, oui ou non? Vu qu'on atteint un niveau technique quand même important, ça, on va voir nos indicateurs techniques pour le maïs. Ben, vous voyez que c'est assez en mode vente présentement. Hein. Il n'y a pas beaucoup, tout le monde voit, comment on pourrait dire, on voit rouge dans le maïs actuellement. Pourquoi? Ben évidemment, la hausse de l'or américain dans la dernière semaine, ça aide pas. Les exportations sont un peu plus intéressante là, dernièrement, mais c'est rien pour. On a beaucoup de retard à rattraper, donc aussi du côté de la demande. Pas très forte. Il n'y a pas de fort mouvement tout d'un coup là, de demande de maïs américain sur le marché. Donc, tout ça mis ensemble. Avec des prévisions comme on a vu là, hier, c'est l'USDA, quand on a publié ces chiffres-là, a fait reculer le marché parce que c'est venu envoyer un signal au marché que possiblement on n'allait pas manquer de maïs l'an prochain. Comme je vous dis, le rapport de l'USDA, les Outlook, un petit grain de sel, mais quand même, c'est les bases en attendant les rapports officiels d'intention d'ensemencement, etc. Autre petit graphique que je voulais attirer votre attention, le tourteau de soya. Hein, celui-là, c'est le contrat du mois de mai qui termine la journée à 480 tonnes courtes. Le tourteau de soya semble pas vouloir dérougir, tant du côté technique que du côté des fondamentaux. Hein. Puis là, ce qu'on appelle les spreads, des écarts, se sont encore une fois ouverts dans les dernières semaines. Hein, parce qu'en début de l'automne dernier, les écarts étaient pratiquement tout près de zéro, entre 0 et 5 $. Là, on parle de 15 $ avec le contrat de mars qui va débarquer celui de mai, là, plus ou moins quelques piastres, là, tout dépendant de la journée qu'on le regarde. Là. Mais tout ça pour dire qu'il y a une forte demande, ça veut dire qu'il y a une demande forte, court terme, qu'on veut combler, donc on est prêt à payer plus cher là, et payer moins cher, donc pas encourager l'entreposage du stock, mais on va avoir du stock maintenant et pas dans d'autres mois, donc ce qui fait que présentement, l'écart s'est agrandi. Pour ceux qui vont rouler des contrats où c'est déjà fait, quand je parlais du 15 $, ben, il est venu s'ajouter à votre base, ce 15 $-là. C'est sûr que notre contrat de mai qui est à 480 et notre contrat de mars là, qui va débarquer prochainement, qui est à autour de 490-495, il y a des fortes chances que notre 480 rejoigne le prix du 495 de mars. Donc, si vous avez roulé vos contrats avec 15 $ d'écart, et oups, le contrat de mai s'envole vers le 495. Bon, on ne parle plus de 15, mais on parle bien de 30 $ plus dispendieux que ce qu'on aurait payé si les prix avaient été fermés ou si les écarts avaient été beaucoup plus faibles entre les contrats. Donc, les spreads allés jusqu'à maintenant, depuis l'automne dernier, ne nous causaient pas trop de maux de tête, mais recommencent à nous causer des maux de tête exactement comme l'an dernier. Puis ces spreads-là ont atteint des niveaux assez stratosphériques à l'été dernier. Donc, c'est à surveiller dans les prochains mois si la situation ne se replace pas. Et ça va être important de mettre des stratégies en place là, si vous ne voulez pas subir ces spreads-là à la fin de chaque échéance. Le porc, hein, pour avoir connu des semaines plutôt difficiles, hein, des reculs, ben là, depuis une semaine ou deux, le prix a envie de repartir vers le haut. Le prix au comptant, hein, est parti sur une tendance à la hausse. On parle d'une augmentation d'environ 5 sous la livre. Là. Je parle des 5 sous américains depuis qu'il a touché son creux il y a de cela quelques semaines. Donc, la tendance pourrait s'avérer plutôt positive pour les prochaines semaines. C'est ce qui aide au marché à terme à progresser présentement. La découpe avait monté des beaux signes de hausse cette semaine, peut-être un peu plus mitigé, disons ça comme ça. C'est sûr que si la découpe devait plafonner ou repartir vers le bas, ben, on a notre prix au comptant qui pourrait en subir les conséquences, qui pourrait avoir un impact aussi directement sur les marchés à terme. Ici, vous avez le graphique du contrat du mois de juillet 2023 avec la devise d'aujourd'hui. Ça nous donne un prix de 293,5 du 100 kg pour le mois de juillet. Donc, ce qui est des valeurs quand même très intéressantes pour l'été prochain. On a parlé de devises rapidement tantôt, mais le dollar canadien, depuis une semaine et demie, je dirais, là, vous voyez sur le graphique, hein, le dernier bout du graphique, a connu des temps plus difficiles. On a une divergence entre les politiques américaines et les politiques canadiennes de hausse de taux. La Banque du Canada avait déclaré qu'elle ferait une pause. Dernièrement, cette semaine, on a commencé à dire que peut-être elle serait obligée d'augmenter encore ses taux. Mais du côté américain, c'est clair que les hausses de taux ne sont pas terminées avec les données économiques qu'on a entre les mains. Ce qui fait que pour la devise canadienne, on connaît un recul. Là. Je pense que c'est une des principales explications pourquoi le dollar canadien a reculé autant dans les derniers jours. Tant et aussi longtemps que les politiques monétaires ne seront pas alignées, ça pourrait continuer dans la même direction. À savoir ce que la Banque du Canada va faire, mais le ton a commencé déjà à changer pour la Banque du Canada, mais je sais que du côté américain, on parle encore d'une augmentation d'un quart de point là, lors de la prochaine réunion. Ici, on avait dit qu'on faisait une pause, mais peut-être que la pause sera remise à plus tard et qu'on finalement on ira encore d'un quart de tour. On verra. C'est sûr qu'avec un dollar qui recule comme ça, si ça devait se poursuivre et continuer plus bas, c'est rien de bon pour l'inflation, hein, ce qui pourrait obliger finalement la Banque du Canada à réagir aussi vers le haut pour garder un taux de change quand même plus favorable pour les achats à l'extérieur. Mais vous voyez que sur le plan technique, hein, on a atteint un niveau à 73,5. Vous voyez, dans les derniers mois, quand on a touché le 73,5, le dollar canadien a rebondi. Ça reste des données techniques. Je pense qu'ici, le fondamental va avoir beaucoup plus son mot à dire que le technique, mais en tout cas, c'est un élément que j'apporte à votre attention. Autre élément que je voulais parler sur la devise, ça vient de m'échapper. Désolé, ça arrive, hein, c'est des plaisirs de faire du live. Donc, à surveiller dollar canadien, oui. Maintenant, je terminerai là-dessus. Encore une fois, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez surtout pas. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Donc, si vous voulez me joindre, vous pouvez m'écrire au efournier@commercialbernardbreton.com ou vous pouvez m'appeler au 418-475-6641, poste 147. Encore une fois, merci et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci, bonjour.